RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Ouvrez vos volets. Ça y est, la brume est partie. Les tennisman arrivent sur le court. Je les vois d'ici de la fenêtre. Ça veut dire qu'il va faire beau. Hein ? Alors là, je vais vous lire un poème que j'avais mis dans une plaquette de ma fameuse expo de 2005. Sauf que le poème est de 2001. Voilà. Plein et langue déliée. L'encre de mes rêves s'effaçait au fur et à mesure que je repensais à cette écriture lointaine. J'avais trempé ces quelques mots dans de l'eau bouillante pour que l'encre disparaisse à jamais. Les lignes bleues se diluaient-elles lentement dans ce liquide translucide en se teintant d'espoir. Je voyais cette vapeur d'écriture qui, dans des rêves, s'évanouissait avec ma peine. Tous ces mots jetés pêle-mêle dans la bouilloire frétillaient encore sans pouvoir me le dire. Certaines phrases tentaient de sortir de l'eau brûlante, malgré la retenue de ces fins de mots. Seule la phrase de la dernière page, assez légère, réussit à s'échapper parce qu'elle s'était imprégnée d'amour et de complicité. Elle ne ressortirait pas vraiment entière. Elle y avait laissé quelques belles exclamations qui se cachaient encore au fond du récipient. Elle ne voulait plus sortir. J'avais beau la chercher. Elle avait compris qu'il valait mieux se faire oublier afin que je puisse retrouver toute ma lucidité. Ma plume empruntait les chemins torturés, pour distribuer cette encre tout au long de mon chemin, alors que les plaintes et les langues déliées trônaient sur les plus belles lettres. Oui, trônaient. Oui, bon, c'est à vous, non ? C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Alors, celle qui était calligraphiée ne voulait pas s'évaporer. Voilà. L'encre persistait sur le papier malgré qu'il soit mouillé. Les mots muets se retrouvaient effacés, sauf dans deux cœurs qui avaient copié et collé le temps d'une longue saison d'écriture sans se faire trop remarquer. Depuis, l'encre va où elle le veut bien, tantôt vers l'amour, la revoici vers de l'humour pour reprendre le chemin érotique du début en décidant de revoir cet océan où l'encre ne se mélange pas avec le sel, mais plutôt en allant vers elle. C'est pas beau ça, hein ? Vous saviez qu'on pouvait avaler comme ça des mots, hein ? Et les mettre dans une bouilloire, hein ? C'est comme je vous racontais l'histoire là. Moi avec une paille, je commence par la première ligne et j'aspire. J'aspire la ligne et je vais jusqu'au bout. Hein. Alors quand c'est mes poèmes, c'est pas grave parce que je les ai déjà en tête. Mais quand c'est les poèmes des autres, c'est bien. Bon, elles sont plus sur le papier, hein, tant pis. Alors j'ai un livre de Baudelaire. Il n'y a plus une seule écriture dedans. Je l'ai aspiré complètement, Baudelaire. Ouais. D'ailleurs, il a l'air tout con maintenant. Bon, vous voyez, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Enfin, pour moi, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous aimez, vous aimez pas, c'est votre problème, c'est plus le mien. Hein. Alors là, un poème aussi. Alors ça, je n'ai même pas la date. J'ai oublié de mettre la date sur cette plaquette-là. Entre nous. L'entremetteur entrebâille l'entrechat vers l'entrée en entrevoyant l'entresol. Entre-temps, l'entretoise, l'entremetteuse. Car son entrejambe entre dans l'entre-deux, mais attention, car l'entrefilet à toutes jambes vers l'entre-deux guerre. Intègre, enterminé, dans l'entrepôt de l'entreprise où sont entreposées des entrevues prêtes à être entrouvertes et rouges d'entrelacer l'entreprenante sur des entrefaites, il arriva un autre chat qui avait entre les dents un entremet. Vous voyez les jeux de mots, hein? C'est bien simple, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait, celui-ci, que j'arrivais même plus à le lire. Hein. Parce que il faut faire un peu comme Raymond Devos. Hein. Il les apprenait par cœur, et puis ça sortait comme ça, d'une façon tellement facile. Hein. Ah ouais, c'est ce que je devrais faire, je devrais essayer d'imiter Raymond Devos. Hein. Enfin, bon, pas trop quand même, parce que je m'inspire de Prévert, si en plus je m'inspire de Raymond Devos, hein. Je sais pas où on va, là. Hein. On va dire, Méliès, c'est un copieur. Hein. C'est un faisant. Un faisant, oui. Un faisant, oui. Pourquoi pas un faisant ? Alors, mariage en gants blancs. Moi, je me suis marié en gants blancs. Hein. Ah ouais, ouais. Nœud papillon, costume bleu marine, chemise blanche, un cran gominé que ma mère m'avait fait. Elle adorait me gominer les cheveux. Ouais. Ce fut écrit en 2002. Je venais de me marier avec un livre en enfilant des gants blancs. En m'approchant de lui, l'odeur de l'encre noircit mon âme par nostalgie de ne plus pouvoir s'imprimer d'amour. N'oubliez pas que j'étais imprimeur. Hein. Des pages comme les bras d'une presse m'envahissaient. Le caractère fragile se lisait à l'envers, sans baisser les yeux. Vous savez, dans l'imprimerie typographique, le plomb, il est à l'envers, pour qu'il s'imprime à l'endroit. Vous voyez bon. Donc, vous voyez, dans ce poème, je me rappelle de mon jeune temps où j'étais imprimeur. J'ai commencé à 14 ans et demi, quand même. Hein. Vous vous rendez compte hein. Je me suis sali les mains dans l'encre, déjà à cet âge-là. Ah, à l'époque, je n'aimais pas l'encre. Hein. Maintenant, je la bois, mais elle est sèche. Allez, l'encre se disait si sympathique, en noircissant mon cœur, par ses écrits de douleur que je pleurais. Et pourtant, chaque livre raconte une histoire sans le vouloir. Hein. Ben oui, le livre, par lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a comme histoire dedans. Hein. Il n'y a que le lecteur qui le sait, puis l'auteur, hein, l'écrivain. Bon. Le livre, par lui-même, il est ignare. Hein. Un livre, c'est ignare, hein. C'est bête. C'est bête, un livre. Hein. Sauf qu'en l'enterre, c'est dompter les mots. Je cherchais la page qui devait me faire le plus mal. Son texte m'apprendrait à lire entre les coups et les injures qu'une femme aura tissées au travers du filigrane du papier. J'ai cherché le docteur des phrases malades pour prendre ma part d'amertume en pastille. Chaque nuit, j'ouvrirai une page de miel pour en adoucir la lecture et en comprendre les espaces entre les lignes de la main, le seul moment où je pourrais encore lire sans me faire mal. Parfois, la lecture est longue, mais si belle quand l'encre pourpre coule d'elle-même. Comme le mot « aimer », bien sûr. Hein. Voilà. J'écris ça à 18h30. Faut être fou pour faire ça à 18h30, tu prépares la gamelle. Hein. Bon, non mais... Alors, tiens, on n'a pas encore passé de musique. Hein. Catherine Ringer, nos maternités.
Les maternités, nos maternités, de proximité, où les bébés naissent en liberté, sont acculés à fermer. Alors, citoyens, attention, il y a grand danger. Ça serait dommage de tout bousiller. Nos maternités survivront. Le pays entier se fait du bourron.
Maintenant, pour équilibrer le budget, il faut tripler les entrées. Ou alors médicaliser.
On veut vraiment nous faire crever.
Ouais. On n'a plus le temps de prendre le temps.
On met des femmes dans les couloirs.
On est bien souvent pas payés.
Flop, hein, ça un terme, une flop. Alors, j'ai un poème, là, qui était dans ce fameux livre « Poèmes pour les filles d'océan ». Ça a l'air que c'est un livre où il n'y a que des poèmes sur la mer, sur les océans, les poissons, voilà, les virgules flottantes, hein, par exemple. Et là, ça s'appelle « Le vrai faux rêve ». Ça fut écrit en 2001 à l'île d'Oléron, en 4 novembre. J'avais enfin franchi la barrière de mes vrais faux rêves. Je voyais le jour, les étoiles, la nuit, le soleil. Puis entre chien et louve, j'avais un rêve fou. Je voyais une étoile qui rêvait de rêver le jour. J'épiais une nuée de soleil qui regardait les étoiles du matin en montant au-dessus de l'océan. Fallait-il aller jusqu'au bout de la jetée, où rien ne s'y passe vraiment, sinon pour voir les goélands se baigner dans un soleil se couchant. Des gnomes stériles tentaient de les attraper avec des filets d'argent encore frais. Je venais de reprendre sous le comptoir un faux rêve. Il me faudra dormir au fond de la mer, avec juste une raie de lumière allant vers elle et un dictionnaire palmé de vrais rêves. Voilà. C'est pas beau, ça ? J'ai essayé, ça marche pas. Hein. Par contre, ce que j'ai essayé, c'est que j'ai fait de la photo sous-marine. Et toi, vous ne pouvez pas le voir, mais lui, il le voit, lui. Hein. Ben, tu l'as, ce bouquin-là, toi. Hein. Ouais, alors là, j'ai pris mon pied en vent. Et les poissons qui venaient me voir et qui me récitaient du Prévert, du Baudelaire, du Rimbaud, même. Oh, c'était incroyable. Ça, par contre, je n'avais pas compris, parce que Rimbaud, il a beaucoup navigué, mais pas de ce côté-là, pas du côté de la mer des Caraïbes. Comment les poissons pouvaient se connaître du Rimbaud dans la mer des Caraïbes ? C'est incroyable, ça. Ils n'ont pas voulu me dire, en plus, hein, parce que je pense que c'était un secret. À mon avis, ils ont dû tricher. Il y a certainement un plongeur, quelques années avant, qui est descendu avec un livre de Rimbaud, et il l'aura laissé, à tous les coups. Ça, j'en suis à peu près sûr que c'est comme ça. Hein. Alors, comme moi, je ne faisais pas encore beaucoup de poésie, je n'ai pas pu leur laisser mes livres. Hein. Bon, parce que là, c'était en quelle année ? Oui, 2001. Ça faisait même pas 2 ans que j'écrivais, déjà. Hein. J'ai commencé en 99. Hein. Vous voyez ? Et depuis, j'ai au moins 18 bouquins. Mais je suis fou, moi, d'écrire autant que ça. Alors que je pense qu'il y a des gens qui ne lisent pas ou qui ne savent pas lire. Pourquoi faire autant de bouquins ? C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, quand je sors un bouquin, je ne fais qu'un seul exemplaire pour moi. Parce que moi, je le lis, mon bouquin. Tandis que vous n'allez même pas me l'acheter. Hein ? Quoi Edwige ? Ah, ça y est, te voilà. Ah bon ? Ah, t'as entendu ma voix dans un poste ? Ah ouais. Ah ben, t'es toujours branché sur RLP, alors. Hein ? T'écoutes pas Radio Tahiti ? Oh, t'as raison, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est complètement con. Hein. J'arrête pas de chanter des chansons de Vainet. Oh, et puis, après, ils sont tous tatoués, là-bas. Hein. T'as aussi un tatouage, toi ? Mais à quel endroit ? Ah, tu veux pas le dire ? Bon, je te comprends, bon, on est à l'antenne, on va quand même pas dire où est le tatouage. Hein. Moi, t'es tranquille, j'ai pas de tatouage, moi, tu vois. Bon, j'ai le nez rouge, ça peut remplacer un tatouage, hein, quand même. Hein. Et peut-être que plus tard, j'aurai une verrue sur le nez avec un petit poil, peut-être, tu vois. Ça fera joli avec ma moustache blanche, hein, tu trouves pas ? Alors, par contre, le petit poil, je vais le teinter en bleu. Ça sera plus joli, je trouve, hein. Ouais. Ah, tu me donnes raison ? Ah, bon, ok. Ben oui, mais comme on est trop loin, je t'enverrai une photo par Internet, quand je l'aurai, hein, d'accord ? Bon, allez. Bon, alors écoute encore, hein, je suis encore là pendant au moins presque 20 minutes, hein, pas tout à fait. Hein. Alors, je voulais... ah oui, c'est ça que je voulais faire, oui. C'est vous lire un truc... Alors, des vieux poèmes, voilà, de 2000. Il y en a même un, il est de 1999, vous vous rendez compte ? Je vais commencer par lui. L'orteil rachidien. Et à l'époque, j'écrivais très court. Je ne faisais pas des longs poèmes, je faisais des poèmes très courts. Les chaussettes cérébrales ne sentent pas vulgairement des pieds, sauf quand on est un poète. Hein. L'Alexandrin est le pays des chausseurs qui pensent que le pied se prend avec du vinaigre. Vous voyez, hein ? Alors, avril 2000. Penser s'appelait. La femme d'Arthur ne pensait pas. Arthur pensait que sa femme pensait. Le fils d'Arthur pensait que ce que pensait son père. Par contre, la sœur ne pensait pas que sa mère ne pensait pas. Le Benjamin a regardé ses parents et pensant qu'il leur fallait penser le contraire. Arthur comprit que la pensée est gratuite. Que la pensée gratuite ne prenait pas de valeur. Que penser d'une famille qui ne pense qu'à se dépenser. Vous avez vu le jeu de mots, hein? C'est pas la première fois que je vous en lis des jeux de mots. Hein? Bon. Alors, entre nous, le 28 avril 2000. Alors, oh, mais on l'a déjà lu celui-là. Oui, oui, je vous l'ai lu tout à l'heure. Entre nous, c'est de. Vous savez bien, l'entremetteur, entrebas, l'entrechat, à l'entrée, en entrevoyant, l'entresol. Bon. Virus, janvier 2000. Faites-moi un électrocardiogramme, c'est pour offrir. Bon, juste quelques battements, pas trop fort. Hein. Avez-vous un peu d'acné? C'est pour faire plus jeune. Donc, 3 ou 4 boutons suffiront. Hein. Non, pas d'emballage, je vais les mettre tout de suite. Hein. Faites-moi voir vos veines. J'ai peur de ne pas en avoir assez. Non, merci, pas besoin d'antidote pour le virus de mon fleuve amour. Vous voyez, hein? Alors, attendez, est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai mis que 4. Alors ça, c'était dans mon premier bouquin. J'ai péché par orgueil. Il faisait 300 pages. J'en avais fait imprimer à 600 exemplaires. J'étais fou. Et je me suis pris pour qui? Pour Baudelaire, pour Prévert, pour Richepin. Hein, c'est pas possible. Alors j'ai réduit la voilure. J'ai réduit la voilure à 50 exemplaires. Mais même là encore, plus ça va, plus les gens ne lisent plus. Ils smartphonisent. Ils télévisent, hein, ils racontent des conneries entre eux, voilà. Et ils disent plus maintenant, voilà. Moi, ça me fait chier parce que les éditeurs, les imprimeurs, les libraires, hein, les poètes, les écrivains, ils vont être au chômage. Et là, je vous dis pas les caisses de chômage, hein, ça va... Ah, comment ils appellent ça, le Pôle emploi? Non, ça s'appelle plus Pôle emploi, maintenant ça s'appelle... T'auras pas du travail, sauf si t'es sage. Ça s'appelle comme ça, je crois, maintenant. Hein. Non, c'est... Travail quoi?
France Travail.
France Travail, ouais, France Travail. Vous vous rendez compte, France Travail? Mais non, la France ne travaille pas, non. Ou pas assez. Non, pas assez. Hein. Bon, voilà. Alors, attends. J'en ai un 2018 plus récent, quand même. Hein. L'inventeur allongé dans un pré vert. Oh! D'ailleurs, l'inventeur n'a rien à voir avec un vantard et encore moins avec l'un qui vend et l'autre qui veut se taire. Le pied de table n'a rien à voir avec une béquille qui en aurait besoin pour les 3 autres. Le tiroir d'une table n'est pas un ramasse-miettes. Hein. C'est facile, vous voyez, vous tirez le tiroir, hop, les miettes de manger, vous les mettez dedans, et quand c'est plein, vous allez porter ça aux oiseaux. Alors voilà, ça peut être ça aussi, hein, bon. Une horloge n'a pas besoin d'un coffre-fort. Alors, je n'ai pas bien compris, mais une horloge. Or. Ah oui, horloge, l'or. Pour mettre de l'or dans un coffre-fort. Loge. On loge de l'or dans le coffre-fort. Oh merde, je viens seulement de m'apercevoir. Vous avez pu me prévenir, bon. Et toi, Edwige, tu savais, tu l'avais, ce livre. Merde, tu as pu me prévenir que j'avais fait une connerie, là. Bon. Être ministre, est-ce raisonnable? Un député ne devrait pas dormir dans une chambre d'enregistrement. Un politique est un prédateur qui se croit victime du peuple. La chienlit n'a rien à voir avec un chien qui lit. Bon, alors si, vous pouvez demander à Charles de Gaulle, parce que la chienlit, c'était lui qui avait inventé le mot. Hein. La marmite errante n'a aucune prétention de devenir présidente. La cuisinière à gaz est une femme qui pète. Le verrou va-t-on? Juppé quitte la table et remet ses bas résignés. Le jus d'orage se boit en un éclair. Le tire-bouchon aura une médaille pour avoir enfin libéré ce nectar prometteur. La morve d'un morveux ne sert qu'alibi d'un mouchoir. C'est bien vrai. La hotte aspire les idées fameuses de la cuisinière. Parfois, le dessus de plat passe en dessous de la table. Le bol espère avoir la chance d'un café noir pour se sucrer. L'épandage ne dépend pas de l'âge d'un personnage. Le buffet ne danse pas devant l'enfant qui n'a rien dans le tiroir. Le garde-manger n'a pas de retraite. les épices remplissent les urinoirs. Bah ouais, épices, hein. Mon slip n'a plus ce qu'il désire. Le pissenlit ne sait pas lire. Et pourtant, il porte des couches culottes. Un comprimé devient de plus en plus rare. Un chat païen courant près des souris de bénitier. Une malle à bagages qui se fait la valise. Un tiroir qui ne sait pas tirer. Un nez qui fait de l'ombre à mes sourcils. Un autre buffet qui danse devant un plat ventre. Le pot de chambre à coucher. La place d'enfer et chevaux. Voilà. C'est pas beau, ça. Et alors, là-dessus, vous avez Prévert qui dit on ne peut tout de même pas prendre tous les... On ne peut tout de même pas tout prendre aux pauvres. Bah oui, j'ai la raison. Hein. Pourtant, c'est ce qu'on fait en ce moment, hein, je peux vous dire. Hein. On prend tout aux pauvres. Hein. Et on les donne aux riches. Vous avez vu les bénéfices qu'ils ont chopé les riches? Alors, vous allez me dire, c'est pas de la poésie, ce que je dis là. Mais c'est pire que de la poésie. Hein, vous vous rendez compte? 46% de plus depuis 2 ou 3 ans de bénéfices. Hein. Et vous payez votre steak 46% plus cher. Hein, vous rendez compte? Un peu. C'est pas normal, ça. Moi, je crois qu'il faut les tuer. Il faut les tuer, puis les embaumer. Pour les mettre au musée Grévin, hein, par exemple. Voilà. Là-dessus, je vais boire un petit coup. Non, on va passer. Allez, François Hardy, je ne vous aime pas. Attention, c'est pas à vous que j'ai dit ça. Hein. C'est la chanson de Jean-François Hardy. Hein. Non, moi, je vous aime. Bon.
Vous lisez en moi comme dans un livre grand ouvert. Défensive, transparente, linéaire. Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas. Un zeste de bluff suffit-il pour trouver vos clés? Quand on surfe par les vagues sans cesse,
vous ne mettez pas vos points sur mes.
Je suis en manque d'a priori. Vous ne me dites ni non, ni oui, ni rien de tout ce qui trahit. Je perds le fil, je perds l'esprit. Je ne vous aime pas. Ce mortel transfert.
aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas.
Eh oui, mais moi je vous aime. Hein ? Je veux même vous faire un aveu. Je m'aime. Je m'aime même, d'ailleurs. Ouais, ouais. Allez. Dis donc, Elvige. Bon, moi, un petit baiser là, même. Ah, c'est pas du créole antillais que tu connais, toi. Ah oui, c'est pas pareil, oui. Moi, c'est du créole antillais. Hein. C'est pareil si je te dis sac à mâcher. Ben non, tu sais pas ce que ça veut dire. Mâcher la noix de coco, non. Ça veut dire, est-ce que ça marche, sac à mâcher ? Hein ? Eh oui. Ben, tu devrais apprendre le créole antillais aussi. C'est pas très loin, hein. C'est quand même plus près que Périgueux. Hein. Ben oui. Il y a quand même 7 heures d'avion en moins et 6000 ou 7000 kilomètres en moins, tu vois. Hein. Donc ça ferait plus que 9000 kilomètres entre les deux. C'est faisable, hein. Pas à la nage, mais non, je t'ai pas dit que c'était à la nage. Peut-être avec vos pirogues, à vous. Ben, si vous étiez intelligent, vous mettriez un moteur, hein, ou une voile à vos pirogues, puisque de ramer comme des bêtes, hein. Ben non. Surtout que vous avez du courant, là-bas, hein. Vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'électricité. Non mais, ah bon, tu m'as fait peur, hein. Bon. Alors, attends, je vais te lire un poème quand même, hein. Bon, enfin, pas qu'à toi. Alors c'est un poème que un copain m'a adressé, m'a offert, hein. Ça s'appelle « Pinget et Ponce se renvoient la balle » à Maurice Méliès. Oh, je suis fier, il m'a offert un de ses poèmes. Oh, c'est tout simplement Daniel Malbranque qui était là hier soir, à notre soirée poésie. Il y avait des petits nouveaux. Il y avait deux nouveaux. Ça y est, on attire les poètes maintenant, c'est bon. Hein, ils s'en allaient, bon, il y en a qui ont cassé leur pipe. Bon, ce n'est pas possible de les garder. Hein. Mais non. On n'a pas le droit de garder des cercueils avec des morts dans une pièce. C'est interdit, ça. Allez, Pinget et Ponce, on voit la balle. Me levant d'avoir fait l'amour comme un vieux sioux, je trouve sur la table de cuisine une botte de radis. Par rapport, la poésie voudrait-elle que j'établisse entre cette nature morte et moi son contraire. Élons à la ressource toute la panoplie des symboles salaces ou des laides et vils propos proposer, qui tire en toute occasion le son escathédra. Mais suis-je si contraire aux tubercules roses qui s'éternisent là, sans aucun sens sur la nappe blanche ? À la fin de la première strophe, le poème aurait pu, laissant ainsi mystère, finalement se taire. Mais, allez donc savoir, l'envie soudain me prit de faire l'événement de l'impromptu rencontre que je cognais sauvage dans ce pauvre radis. Tout près, dans la chambrette, avec insistance, on ne cessait d'appeler à d'autres réjouissances dignes du paradis. Je pense que c'était sa muse qui l'appelait. Et qui disait, tu ferais mieux de t'occuper de moi que du radis. Enfin, j'anticipe, hein. Mais bon, comme je connais bien l'auteur, je me doute de la chute qu'il aurait pu faire. Hein. Bon. Et en plus, s'il me l'adressait à moi, c'est qu'il savait qui j'étais. Hein. Bon. J'espère que ce n'était pas moi le radis. Ah non, faut pas déconner là. Hein. Tiens, je vais en manger à midi des radis, hein, pour la peine. Ah ouais, je les ai trouvés là. Ils sont chers les radis maintenant. Oh là là, incroyable. Comme tout d'ailleurs. Hein. Et alors, en plus, j'avais pas la queue d'un radis dans ma poche. Alors, attention, il y a l'index du projecteur de son qui lève son grand doigt en disant « Attention, il va falloir que je te coupe la parole, je coupe le sifflet. » Ouais, bon. Et bon, bah écoutez, hein, donc ça y est, j'ai le sifflet qui est coupé. Je vous dis au revoir. Ça y est, c'est coupé.